Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Chelsea, Moad, Samantha, Fatima, Loan, Yann, accompagnés par Rézi et Marion de la mission locale de Cergy, la mission locale avec de Cergy. Chaque jour, cette structure les aide à construire leur avenir, qu'il s'agisse de trouver une formation, un emploi, un stage, de réaliser un projet professionnel ou de gagner en confiance pour avancer dans la vie. Au micro d'IDFM Radio, nos invités vont partager leur parcours, leurs ambitions, les obstacles qu'ils ont rencontrés, mais aussi les solutions et les réussites qui les encouragent à regarder l'avenir avec optimisme. Une émission placée sous le signe de l'écoute, du partage, d'expérience et de la valorisation des talents de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous allons aborder trois grands thèmes. Donc, d'abord, nous allons parler de réseaux sociaux, de scrolling, d'addiction. Ensuite, nous allons parler de changement climatique et d'éco-anxiété. Trois thèmes d'actualité, trois temps d'échange pour comprendre les préoccupations, les réflexions et les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui. Très bonne écoute sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Alors, on commence par le thème des réseaux sociaux, du scrolling, de la santé mentale et de l'addiction. Quels réseaux sociaux utilisez-vous? Alors, pour en parler, c'est Chelsea, Samantha et Yann qui ont choisi de parler de ce sujet. Donc, Chelsea, quels réseaux sociaux suis-tu, toi?
Alors, les réseaux sociaux que j'utilise au quotidien sont Instagram, Snapchat et TikTok.
D'accord. Yann?
Bah, pareil, hein, Instagram, Snapchat. Non, pas TikTok, bah, justement parce que je scrollais trop.
Ah, d'accord. C'est un sujet qui a été choisi plutôt par Chelsea, Samantha et Yann, mais je crois que Loan aussi, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, il me semble.
Donc, exact.
Quel réseaux sociaux tu écoutes, toi, au quotidien?
Pareil, Snapchat, Instagram et TikTok.
Et tu passes combien de temps en moyenne chaque jour sur ton téléphone?
Au moins 5 heures, je pense.
5 heures.
Mais là, depuis que je suis revenue par ici, ça a beaucoup diminué.
Donc, quand tu dis que tu es revenue par ici, qu'est-ce que tu veux nous dire exactement? Tu étais où avant?
Avant, j'étais en Maine-et-Loire.
D'accord.
Et je suis revenue ici pour quelques temps.
D'accord. Est-ce que tu as l'impression de passer plus de temps que prévu sur les réseaux sociaux que tu voudrais?
Oui, totalement.
Et cependant, tu y vas quand même?
Oui, mais beaucoup moins que quand j'étais en Maine-et-Loire.
D'accord, parce que tu as plus d'activités aujourd'hui?
Oui, c'est ça.
C'est ça, bon. Yann, alors toi, est-ce que tu passes plus de temps que tu ne voudrais sur les réseaux sociaux?
Oui, beaucoup. Surtout Twitter, que j'ai oublié de mentionner avant, mais je passe beaucoup de temps sur ce réseau social aussi, à lire des informations qui me sont inutiles en vrai, virtuellement. Oui. Et voilà, j'en souffre beaucoup, j'en pâtis beaucoup parce que j'ai l'impression de perdre du temps.
Ah oui. Oui. Et cependant, tu ne peux pas t'en empêcher.
C'est comme
une addiction.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu peux pas consulter ton téléphone pendant plusieurs heures?
Justement.
Est-ce que ça arrive?
Rarement, mais quand j'ai pas de réseau ou pas de batterie, je suis presque content de pouvoir ne pas utiliser mon téléphone.
Oui, c'est donc c'est l'effet inverse. Au lieu d'être frustré, tu es content. Mm. Mais de toi-même, tu ne vas pas te débrancher.
J'essaye, mais le fait que ce soit un geste conscient, c'est désagréable un peu et l'ennui prend le dessus et on a envie de voir ce qui se passe sur son téléphone.
Ouais, je comprends. Et toi, Moad, qu'est-ce que tu nous dis des réseaux sociaux? Tu les consultes beaucoup?
Je suis beaucoup sur Instagram. Sur TikTok aussi.
Oui.
Voilà, je doom scroll beaucoup. Je sais que c'est pas bien, mais mais moi j'aime bien.
Du coup, ouais. Ça te fait passer le temps.
Ouais, j'aime bien, surtout le soir.
Et qu'est-ce que tu vas voir en priorité sur Instagram?
Je poste sur Instagram, mais je le fais pour le fun et pour les amis. Mais
d'accord.
En général, oui, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Fatima, je t'ai pas demandé, toi, tu scrolles beaucoup?
Oui, moi je scrolle je ne fais pas exprès de scroller, mais je suis obligée à scroller parce que j'ai la guerre dans mon pays d'origine qui est le Liban. Donc je suis obligée à ouvrir les réseaux sociaux. Et,
oui, après quand tu dis obligée, personne ne t'y oblige, c'est toi-même qui t'y oblige.
Non, c'est la guerre qui m'oblige, parce qu'il faut être informé sur ce qui se passe dans son pays, il faut être informé sur la réalité de ce qui se passe. C'est pour ça que j'utilise Instagram, qui est très mobilisé pour la diffusion des vidéos et des photos. Et j'utilise X pour être au courant des informations, surtout dans le milieu politique, au niveau national libanais, au niveau national français, au niveau mondial aussi, parce que ce qui se passe dans le monde maintenant, c'est vraiment ce qui se passe au Liban, c'est vraiment relié à tout ce qui se passe dans le monde. Et aussi je suis sur WhatsApp, parce que c'est là où je parle à ma famille, et je suis des groupes et des
t'es en non-stop sur WhatsApp.
Oui.
Est-ce que vous avez le sentiment que les réseaux sociaux rapprochent ou éloignent? Alors, qui veut répondre à cette question? Oui,
approche ou éloigne? J'ai plutôt, en fait c'est un mélange des deux.
Oui.
Un mélange des deux selon moi, parce que ça nous approche de nos proches à distance, notamment, et ça nous éloigne de la réalité. Parce qu'on peut rester enfermé dans une bulle pendant des heures et des heures. Par exemple, si je parle de mon temps d'écran, il est en moyenne de 9 heures et ça a baissé.
Ah oui, 9 heures.
Et ça a baissé, vraiment. Et en fait, tout simplement, on s'en rend pas compte, mais ça nous éloigne énormément de la réalité. Il peut même arriver qu'on loupe des choses, tout simplement, parce qu'on n'a pas regardé l'heure. Alors qu'on est tout le temps sur le téléphone, hein, et qu'il y a l'heure sur le téléphone, mais tout simplement parce qu'on n'a pas regardé l'heure, parce qu'on est trop concentré dans ce cercle vicieux, en fait.
Oui, est-ce que, donc, c'est important ce que tu dis, le fait que ça t'éloigne de la réalité, tu en as conscience?
Oui.
Et cependant, tu continues à aller sur les réseaux sociaux?
Je continue à aller sur les réseaux sociaux, mais en fait, ce qui a changé en moi, entre la mois d'avant et la mois de maintenant, c'est que je sais faire la part des choses. Auparavant, je pouvais rester vraiment sur les réseaux sociaux à tout moment. Là, par exemple, pendant que je vous parle, j'aurais pu prendre mon téléphone. Sauf que maintenant, je sais vraiment faire la part des choses. Notamment, s'il faut que je cuisine, je vais savoir qu'il faut que je dépose mon téléphone.
Oui, c'est ça, tu vas poser ton téléphone.
C'est ça, exactement. Okay. Je sais en fait à quel moment je dois poser mon téléphone et à quel moment je peux le prendre.
Et vous avez l'impression d'être suffisamment sensibilisé au risque d'addiction? Parce que finalement, tout ce que vous nous décrivez là, c'est un petit peu de l'addiction. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'être sensibilisé, Mohad?
Pas trop. Après, pour moi, les réseaux, c'est une source d'inspiration.
Oui.
Et on peut trouver plein de gens qui nous ressemblent.
Mais tu le considères pas comme une addiction quand
non.
tu passes plusieurs heures tous les jours?
Faut savoir faire la part des choses, hein. Faut pas non plus rester toute la journée sur le téléphone.
Ouais.
Mais on peut tirer du bon.
Voilà, c'est tout. Yann, toi, est-ce que tu as l'impression d'être sensibilisé à ce problème d'addiction?
Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de prévention dessus. En fait, c'est vraiment très sous-estimé, j'ai l'impression. C'est un peu comme l'alcool, c'est super normalisé. Et vu que tout le monde utilise son téléphone tout le temps, j'ai pas l'impression que les gens sentent le besoin de faire de la prévention autre que pour dire sois pas trop sur ton téléphone, mais c'est comme bois pas trop d'alcool, mais les gens boivent toutes les semaines. Et c'est beaucoup, quoi, pour moi.
Et toi, Lohan, qu'est-ce que tu en penses? T'as l'impression d'être tu as l'impression d'être addict ou pas?
Oui, totalement.
Tu le reconnais?
Oui.
Et est-ce que vos parents ont une influence dans dans le temps passé sur les réseaux sociaux, ils interviennent ou pas, Lohan?
Oui, quand même. Surtout ma grand-mère, mais sinon oui.
Et tu l'écoutes du coup, ta grand-mère?
Oui,
quand même. C'est bien. Fatima?
Oui, moi je remarque l'addiction surtout parmi la génération qui est plus petite que moi. Même que moi, je suis considérée parmi la génération qui utilise beaucoup les réseaux sociaux numériques. Mais je trouve que, par exemple, mon frère qui a 11 ans, il est tout le temps sur le téléphone. Il connaît des choses que moi-même, je ne connais pas. Et ça m'étonne parce qu'avant, je me demandais la question de est-ce qu'avec le temps, je vais avoir un recul sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et je me disais que non, c'est pas possible parce que je les utilise chaque jour. Mais je remarque qu'avec le développement très rapide des technologies, avec l'avènement aussi de l'IA, on trouve que ça avance beaucoup et ça nous attache au téléphone beaucoup plus qu'avant.
C'est une vraie.
Oui, mais en fait, on est présent sur les réseaux sociaux, mais aussi on n'est pas présent en même temps. J'adopte ici ce que la sociologiste américaine Sherry Turkle dit dans son livre Alone Together, seul ensemble. On est connecté partout, mais présent nulle part.
Oui. Oui. Oui, oui, c'est un petit peu le mal du siècle aujourd'hui, hein, de ce côté-là.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ce que dit
totalement,
Fatima,
oui. Totalement.
Complètement.
Oui.
Samantha, est-ce que tu veux intervenir ou c'est trop tôt encore? Merci pour est-ce qu'on peut imaginer les réseaux sociaux dans 10 ans? Vous y avez réfléchi ou pas, Chelsea?
Je pense que dans 10 ans, déjà les réseaux sociaux prennent beaucoup de place.
Oui.
Prennent beaucoup de place et maintenant dans tous les domaines, hein, que ça soit même dans le domaine professionnel, domaine scolaire, ça prend énormément de place. Et vu l'évolution de l'intelligence artificielle qui a fait éruption dans la vie, je pense que dans 10 ans, ça va prendre encore plus de place et il y aura encore moins de personnes connectées. Parce que si je prends du coup l'exemple de Fatima, quand on voit même les personnes en dessous de nous, et moi aussi qui ai un petit frère, un petit frère de 14 ans
qui est aussi accro,
est énormément sur son téléphone. Et encore une fois, ce sont des enfants, ce sont des enfants qui les a induits en cette erreur entre guillemets, c'est nous.
Oui,
vu que ce sont nous
les parents,
c'est ça, exactement.
Ce sont nous
les exemples. Et encore, moi, je vais pas trop dire mes parents parce que mes parents ne sont pas addicts aux réseaux sociaux. On va dire que c'est plutôt moi qui ai inculqué ma mère aux réseaux sociaux. Mes parents ne sont pas addicts aux réseaux sociaux, mais là, pour le coup, c'est ma responsabilité à moi parce que cette addiction vient à travers ma personne, à travers ce que je fais tous les jours, être sur mon téléphone.
Ouais.
Mais moi, je vois aussi qu'à cause de l'absence, je trouve que c'est aussi à cause de l'absence des activités qui remplacent les réseaux sociaux numériques. Il n'y a plus de sociabilité entre les gens, même après l'école, par exemple, le soir, on n'a rien à faire que le téléphone. Il y a peut-être les espaces de rencontre entre les gens sont de moins en moins disponibles.
Oui, c'est sûr que c'est un vrai problème. Je m'adresse à Marion. Elle va nous. Qu'est-ce que Marion voulait dire sur ce premier thème sur les réseaux sociaux?
Je rejoins un peu tout ce qui a été dit par les jeunes ce matin. Maman, moi-même, d'une pré-ado de 12 ans, j'essaie, en tant que maman, de limiter le temps des écrans par un contrôle, un échange, mais on tombe vite effectivement dans l'addiction, malgré la prévention que je peux faire et la surveillance, enfin en tout cas la limitation du temps d'écran, je m'aperçois dans les contenus qui peuvent être suggérés ou dans ce qu'elle regarde que la dérive de l'addiction intervient très rapidement et sans crier gare.
Oui, on est pris à son propre piège quelque part. À tel point d'ailleurs que les autorités, commencent à réfléchir à interdire les écrans dans certains espaces. Donc, c'est pour dire que ça devient quand même plutôt un fléau. Merci à tous d'avoir évoqué ce sujet. On va faire une pause. Alors, qui a un titre à nous proposer pour cette première pause?
Je peux proposer Holm pour ML. C'est une chanson qui parle sur comment on peut. On souhaite avoir un meilleur mood.
D'accord, oui, très bien. Merci Fatima. On écoute ce morceau.
صور IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous. C'est la parole aux jeunes sur IDFM Radio. Et aujourd'hui, nous accueillons Chelsea, Moad, Samantha, Fatima, Loan, Yann, accompagnés par Rézi et Marion de la mission locale AVEC de Cergy-Pontoise. Alors, ces jeunes ont choisi des thèmes bien précis, donc les réseaux sociaux et l'addiction, la santé mentale, l'éco-anxiété en rapport avec le changement climatique, et puis le choix de l'orientation professionnelle ou personnelle. On aborde donc aujourd'hui le changement climatique. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe parce que vous êtes jeunes, et c'est vrai que, comme nous l'avons dit en préparant l'émission, c'est vous qui êtes les adultes de demain. Donc, est-ce que ce changement climatique vous angoisse, Chelsea?
Alors, oui.
Oui.
Oui, oui, oui. Bah, il m'angoisse déjà actuellement. Il m'angoisse déjà actuellement parce que, bah,
dû à ce changement climatique qui est en partie dû à la pollution.
Oui.
Bah, on a des changements de température soudains qui, notamment, impactent notre santé, en fait.
Oui. Tu penses que ça impacte aussi la
santé? Oui, ça impacte la mienne actuellement.
La santé physique, pas la santé mentale.
Santé physique dans un premier temps.
Oui.
Vu que, en fait, la santé mentale, je pense qu'on va pas vraiment le ressentir. Bah, notamment si les personnes ne s'y intéressent pas particulièrement, elles ne veulent pas forcément le ressentir. Mais par contre, si elles le sentent physiquement, là, c'est autre chose.
Oui.
Quand on passe du chaud au froid d'un coup en plein mois de mai,
c'est sûr que ça déstabilise.
C'est ça exactement. On passe du 17 au 40 degrés, c'est qu'il y a un problème.
Ouais,
et c'est de là que les gens qui ne s'y intéressent pas à la base peuvent, ça peut les pousser à la recherche en fait.
Ouais, ouais, je comprends. Mohad, toi, que penses-tu de ce changement climatique? Tu le ressens? Ça t'angoisse?
J'irai pas jusqu'à l'angoisse, mais on a tous une part de travail à réaliser. Forcément, ça peut impacter la santé physique, comme l'air qui se dé, je sais pas comment on appelle ça,
qui se dégrade,
beaucoup. Voilà, on avait des airs, un air très dégradé. Je crois que c'était peut-être il y a des semaines de ça.
Tu l'as ressenti toi à ce moment-là?
Oui, moi je suis asthmatique et j'ai un traitement de fond, donc je le ressens. Et oui, c'est un peu angoissant.
C'est un peu.
Mais voilà, on vit avec. Hein.
Ça crée, comme on dit, de l'éco-anxiété.
Ouais, c'est ça.
Yann, toi, tu le ressens comment, ce changement climatique?
Je suis déçu, je me sens lésé parce que tout le monde sait pourquoi ça arrive, mais personne ne fait rien.
Ouais.
Enfin, surtout la génération de mes parents. C'est un peu à cause d'eux et de la génération avant. Et je comprends pas pourquoi personne ne fait rien, pourquoi on ralentit pas l'économie, par exemple. En fait, je m'y connais pas du tout en économie, mais j'aimerais que quelque chose soit fait par les États et les grandes entreprises. Parce que en général, on essaye de rejeter la faute sur nous, les civils, alors que c'est pas tellement le recyclage ou conduire une voiture qui pollue le plus. Bon, avec l'effet d'accumulation, les voitures, oui. Mais je trouve que c'est surtout les grosses sociétés qui polluent le plus et les États ne font rien juste pour faire plus d'argent. Au mépris de la nature, alors que ça n'a aucun sens pour moi, quoi.
Ouais. Et toi, à ton niveau, est-ce que tu fais quelque chose justement pour la planète? Est-ce que tu as des gestes écologiques?
J'essaie de recycler, c'est-à-dire que je mets pas tout dans la même poubelle, alors que j'ai une grosse benne, mais je fais le tri plastique vert.
C'est bien.
Et je jette pas mes mégots de cigarettes au sol. J'essaie toujours de trouver une poubelle, ou au pire, je le remets dans un mouchoir. Mais c'est tout ce que je peux faire, je pense.
Et quand tu te déplaces, t'es motorisé ou t'es plutôt tu prends les transports?
Non, je me déplace en transport en commun.
En transport, oui. Donc
mais c'est pas par choix.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais si tu avais le choix?
Vu que je suis souvent en région parisienne, je garderais les transports en commun.
Ouais.
C'est juste plus simple et plus rapide aussi.
Merci Yann. Fatima, toi, ton sentiment sur ce changement climatique?
Moi, je veux dire que nous sommes la génération climat. Au sens du sociologue Laurent Lardeux, qui veut dire que nous sommes une génération que l'expérience collective est marquée par la conscience du dérèglement ou du changement climatique. Et ce terme de génération climat part du constat du sociologue allemand Karl Mannheim, qui parlait des générations et qui expliquait que certaines générations sont façonnées par des événements historiques majeurs. Et je trouve que notre génération, l'événement historique, l'un des événements historiques majeurs qui les façonne, c'est le changement climatique ou la crise climatique. Ce qui nous cause l'éco-anxiété, en termes très, très utilisés. Et aussi, il y a d'autres chercheurs comme le philosophe Glenn Philbraith, qui est un philosophe australien qui propose un concept qui est particulièrement intéressant, qui est la slowstalgie.
La quoi?
La slowstalgie.
Slowstalgie.
Oui, c'est la souffrance qu'on ressent lorsqu'on voit son environnement se transformer et se dégrader.
D'accord. C'est un néologisme ou c'est un mot qui existe?
En fait, oui, c'est un mot qui existe. J'ai pas trop d'informations parce que j'ai fait des recherches très rapides. Je ne suis pas experte du climat, mais j'essaie toujours en parlant de chercher des théories et des idées plus scientifiques pour parler et les relier au sujet discuté, parce que ça me donne une vision plus claire sur les choses et comment on peut avancer à partir des idées déjà existantes.
Ouais. Merci Fatima. Alors moi, toi, tu voulais parler des océans, du sauvetage des océans. Donc pourquoi ce sujet t'intéresse-t-il?
Quand tout à l'heure vous m'avez posé la question, c'est la première chose qui m'est venue en tête.
Oui.
J'avais vu un TikTok dessus, donc je sais pas pourquoi j'y ai pensé, mais comme je l'ai dit, pour le changement climatique, on a tous une part
de responsabilité.
Ce serait bien, voilà, de pas polluer les plages. Rien que de pas jeter le plastique, les sachets ou les sandwichs quand on a un pique-nique au bord de la plage, voilà. Ce serait bien.
Que vous avez le sentiment autour de vous que vos amis, enfin vous qui êtes plus jeunes, vous avez tous ces gestes?
Non.
Yann parlait des parents qui sont responsables, mais vous, les jeunes, donc vous avez aujourd'hui la possibilité peut-être d'inverser la tendance.
Moi, mes amis, non, pas trop, mais je leur fais pas la morale, mais je leur dis de ramasser, quoi.
Ouais,
je leur dis ramasse, jette pas par terre, jette-le à la poubelle, quoi, fais un effort.
Et quel message aimerais-tu adresser aux gens qui nous gouvernent pour justement essayer de sauver la planète?
Écoutez,
vaste sujet.
C'est fatigant après. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui peut être apte au poste, de nettoyer les océans. Enfin bon, c'est
oui,
fatigant.
Oui, en même temps, il faut déjà commencer par ne pas jeter ses propres déchets.
Voilà, c'est
dans
ça.
L'océan,
en fait.
Rien que ça.
Si on fait tout ça, je pense qu'on aura.
Ça peut inverser la tendance.
Ouais, je pense qu'on pourrait avancer si on commence déjà à tous jeter. Je passais mes goûts à la poubelle.
Merci en tout cas pour ce message, Moad. Yann, c'est ton avis à commencer par soi-même.
Mon avis,
ne pas jeter ses déchets, de faire attention. Ah. Tu penses que c'est suffisant?
Non, je pense vraiment qu'il faut un agissement des États, pas que de notre État, de tous les États, parce que remettre la faute sur nous les civils, c'est vraiment hypocrite, sachant que on ne contribue même pas à plus de la moitié de la pollution. J'ai oublié la statistique que je voulais référencer, mais en tout cas, je sais que le plus gros impact sur l'environnement, c'est pas nous qui l'avons, mais c'est eux. Donc
c'est l'industrie, tu veux dire?
Ouais. Donc trier et jeter les choses à la poubelle, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. En fait. C'est sûr que c'est un sujet qui est quand même complexe, hein, et que pour arriver à trouver la solution, il y a du travail, c'est clair. Je m'adresse à Rézi. Rézi, est-ce que vous voulez commenter ce débat des jeunes sur le climat, sur le changement climatique?
Bravo à eux déjà pour leur engagement. Ça fait plaisir de voir la jeunesse qu'on suit qui s'engage autant pour un sujet aussi important. Moi, je pense pas qu'à leur âge, j'étais aussi impliqué sur le sujet. J'ai pas une aussi grande connaissance qu'eux, donc c'est intéressant de les entendre. Je pense qu'ils ont raison, que c'est un effort collectif qui vient pas forcément que de nous, mais qui vient de tout le monde. Et je pense que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice pour faire avancer les choses. Donc voilà. Mais en tout cas, top, super avis, c'est cool.
C'est une belle conclusion. Merci Rézi, merci. Allez, on marque une nouvelle pause et j'ai besoin d'un nouveau titre pour... oui, Moad?
Panchico, Panchico, quoi.
D'accord. Bon, s'il et plaît. Pourquoi ce titre?
Je sais pas, c'est bien, c'est doux. Je trouve que ça colle à la radio.
D'accord, ok. Écoute, on écoute ce nouveau morceau. Merci et on se retrouve juste après. Stuck in the shops on Saturday when I feel this way. Maybe tomorrow, when the disorder's on its way, when I fall this way. Past the garden, I'll be your anybody. If you be the last somebody to change. Oh,
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est toujours la parole aux jeunes sur IDFM Radio et aujourd'hui nous accueillons des jeunes de la mission locale avec de Cergy Pontoise. Avec nous dans le studio Chelsea, Mohad, Samantha, Fatima, Lohan, Yann, accompagnés par Marion et Rézi. Après un choix de sujet, on aborde le troisième sujet, donc l'importance du choix d'orientation. Alors, je vais vous demander un petit peu ce que vous faites chacun. Donc, Chelsea, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ?
Alors, déjà pour commencer, j'ai 21 ans.
Oui.
Donc, ça sera très important pour la suite. J'ai 21 ans et actuellement, je suis inscrite à la mission locale pour le but de trouver une alternance, stage pour ma première année de BUT.
D'accord.
Technique de commercialisation que je vais débuter en septembre.
C'est ça, on a compris que tu étais hyper diplômée. Dès que tu as envie de faire une formation, tu l'as fait et tu l'as réussi.
Je suis un peu partout.
Visiblement. Mais c'est un petit peu toi d'ailleurs qui a lancé ce sujet, l'importance du choix d'orientation. Pourquoi ce sujet ?
Alors parce que j'ai un peu eu du mal niveau orientation. Dès le collège, parce qu'en fait, dès l'année de collège de troisième, on nous demande déjà de faire un choix d'orientation en fait en entrant au lycée pour faire de savoir si on veut rentrer en voie professionnelle ou générale. C'est un peu compliqué pour des jeunes de 15 ans.
C'est vrai.
C'est un peu compliqué.
Quand on n'a pas une passion.
Exactement.
Avérée.
C'est un peu compliqué pour des jeunes de 15 ans. Et puis, même si on a une passion, on va nous renvoyer vers des psychologues d'orientation et tout ce qui suit. On va nous demander de suivre nos passions. Mais c'est ce qu'on veut en étant adolescent.
Est-ce que tes parents t'ont influencé dans le choix d'orientation ?
Alors, pas du tout.
Quand tu étais en réflexion, non ?
Pas du tout. Mes parents, en fait, se sont toujours contentés de me donner leurs idées.
Oui.
De me donner leurs idées et de me dire dans quoi ils me verraient bien. Ils me voyaient bien dans le commerce et j'y suis. Ils me voyaient bien dans le commerce.
Aujourd'hui,
exactement.
T'y plais.
J'y suis, je m'y plais. Mais mes parents n'ont pas été une mauvaise influence sur mes choix d'orientation et mes études. Je dirais plutôt que. Exactement. Je dirais plutôt qu'en fait, la mauvaise influence, entre guillemets, pour moi, ça a plutôt été les professeurs.
Ah!
Ouais.
D'accord.
C'était tout l'inverse. Ça a plutôt été les professeurs. Et moi, justement, ça a commencé en troisième au collège. Parce que je voulais entrer en général. Mmh. En voie générale. Sauf qu'on voulait m'envoyer en voie professionnelle.
D'accord.
Voie professionnelle qui est très bien. Qui est très bien aussi. Mais ce n'était pas ce que je voulais.
Mais sur le moment, ça t'a un petit peu.
C'est ça, exactement.
Heurté.
Et pourquoi je voulais pas? Pas parce que il y a certains clichés autour de la voie professionnelle, comme quoi ça serait pour les plus bêtes.
Oui. Mmh.
Pas du tout.
Oui,
mais en fait, moi, pourquoi je ne voulais pas la voie professionnelle ? Parce que on me met déjà dans une case. J'ai 15 ans, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, je voulais absolument aller en général. Comme ça, j'ai les yeux partout. Et puis, même en entrant en général, lorsque tu dois entrer en première, tu dois aussi faire un choix pour savoir dans quelle spécialité tu veux te retourner. Et puis, même ça, ça a été compliqué pour moi parce qu'encore une fois, je suis allée en général parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc ça a été assez.
Mais finalement, au bout du compte, aujourd'hui, après un stage, une alternance, c'est ça que tu as
suivi. En fait, moi, ce qui a été bien, c'est que du coup, suite à mon bac, j'ai eu un bac STMG. Suite à mon bac, j'ai été un peu partout, j'ai fait plusieurs formations. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut dire et contrairement à ce qu'on peut écouter, notamment de la part des professeurs, du corps enseignant. Je pensais être en retard, ça m'a frustrée et ça crée de la frustration justement parce qu'on nous met une pression dès le plus jeune âge. Je pensais être en retard, mais en fait pas du tout.
Tu te rends compte que c'est pas le cas.
Exactement. Et au final, même avoir fait toutes ces formations que j'ai fait, ça m'a apporté énormément de choses. Et au final,
aujourd'hui, donc, t'es complètement épanouie. En tout cas, c'est le sentiment que tu donnes.
Totalement. Et j'ai que 21 ans.
C'est ça, absolument.
J'ai que 21 ans au final.
L'avenir est devant toi.
Exactement.
Merci Chelsea, c'est un beau message. Merci à toi.
De rien.
Alors, Mohad, toi, le choix de l'orientation, c'est important pour toi ?
Le choix de l'orientation, à partir de quel âge ?
Eh bien, peu importe. Aujourd'hui, tu dois faire des choix. Est-ce que tu te sens épanouie comme Chelsea pour savoir dans quelle direction tu dois aller ? Ou c'est compliqué ?
Non, ça va. J'avais pensé à faire un BAFA grâce à l'allocation versée par Mission Locale.
Oui.
Je pensais à faire le BAFA. Et après, peut-être pour un poste d'animateur. Mais oui, c'est important.
C'est dans cette direction que tu voudrais aller plus tôt ?
Oui.
Tu nous as dit aussi que tu avais envie de voyager.
Oui. J'ai envie.
Pourquoi ce goût des voyages ?
Je pense que tout le monde veut voyager. Enfin, tout le monde a ce goût pour voyager, pour découvrir des nouvelles horizons, des nouvelles cultures, quelque chose de différent de où on grandit. Et oui, pour revenir sur le choix de l'orientation, les conseillères d'orientation existent. Voilà, donc si on est perdu, en vrai, on peut aller les voir. Et
ce sont des bonnes sources d'inspiration.
Je pense en vrai. Bon, des fois, elles désorientent un peu, mais
ça te fait réfléchir.
Oui, mais en tout cas, elles nous donnent plusieurs clés quand même.
Oui.
Après, ça dépend des personnes, ça dépend des expériences, mais ouais, souvent des clichés sur les.
C'est plutôt positif quand même.
Moi, c'est mitigé un peu, mais voilà. Bon, je vais pas en dire plus sur les conseillers d'orientation. Enfin, voilà.
D'accord. Merci, Mohad.
De rien.
Yann, toi, le choix de l'orientation, c'est important ?
Oui. Surtout que, en fait, c'était un peu comme Chelsea. C'est surtout mes parents qui me disaient quoi faire. Mais au final, tout ce qu'ils m'ont dit de faire, ça m'a pas plu.
Oui.
Donc, j'ai décidé d'arrêter et de poursuivre quelque chose qui me plaît vraiment. Mais le problème, c'est que vivre de passion, apparemment, ça paye pas trop bien. Enfin, j'ai envie de faire quelque chose en rapport avec la musique.
Oui.
Donc, j'aimerais bien travailler dans les métiers du son, tout ça. Mais apparemment, c'est super bouché. C'est dur à trouver. Et même pour être un artiste aussi, c'est compliqué. Surtout pour les jeunes. Et du coup, c'est un peu démotivant, quoi.
Alors après, pour être un artiste, il faut surtout avoir de l'inspiration, hein, pouvoir... tu voudrais composer
Oui, je joue à la basse.
Tu joues déjà Et tu penses que c'est différent d'assumer un choix différent de celui des autres
Oui, beaucoup, surtout par rapport à ses parents qui sont déçus, qui veulent peut-être que tu fasses de longues études. Ou, en fait, je comprends la démarche que tout le monde veuille être en sécurité, mais des fois, il vaut mieux être moins confortable et faire quelque chose qu'on regretterait pas plutôt que de faire des études larges où on pourrait toujours avoir un travail ou quoi.
Ouais.
Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire.
Et comme nous a dit Chelsea, on peut réussir même quand on s'est trompé d'orientation au départ.
Hein.
Merci Yann. Fatima, toi, ton choix d'orientation, il est déjà tout fait, j'ai l'impression. Oui.
Au niveau d'études, c'est fait, mais pour après, j'aimerais continuer un doctorat en sciences sociales et être professeur d'université tout en travaillant en journalisme et création de contenu relié aux sciences sociales sur les réseaux sociaux numériques. Et c'est ce que je fais maintenant.
Très bien. Merci, Fatima.
Merci.
Louane, alors toi, ton choix d'orientation, je crois que c'est la petite enfance, tu nous as dit.
Oui, c'est ça, exactement.
Pourquoi ce choix, Louane ?
Parce que en fait, je me suis dirigée avant dans la vente, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis toute petite, j'avais des cousins et cousines et j'aimais trop m'amuser avec eux, trouver des idées pour jouer. Oui. Mmh. Et en fait, après que j'ai arrêté mon bac STMG, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était avec les enfants que je voulais être, car j'ai fait un stage de découverte en maternelle et j'ai tout de suite adoré. Et c'est dans ça donc que je veux partir.
Oui, puis en plus, tu as l'air douce. Enfin voilà, on a le sentiment que tu dois bien t'occuper des enfants.
Oui, ouais, oui.
Ça te plaît. Je vous pose une question à tous. Vous me répondez juste par un mot. Quels critères sont les plus importants ? Salaire, passion, stabilité ou utilité sociale ? Fatima.
Je choisis un mix entre tout ce que vous avez dit. Mais en priorité, je choisis la stabilité.
La
parce
stabilité.
Que si on n'est pas stable, on va avoir des problèmes psychologiques, financiers, même au niveau de l'utilité sociale. On ne va pas être en bonne forme pour avoir notre utilité sociale bien, je ne sais pas comment dire, mais
oui, oui.
Enfin, avoir notre utilité
sociale. C'est un bon résumé. Lohan, toi, tu choisirais quoi ?
Pareil, la stabilité.
La stabilité. Yann ?
Moi, je dirais passion en premier, toujours.
Passion.
Et en second, salaire.
Salaire. Mohad ?
Bah, les deux. La stabilité et ce qu'on aime.
Très bien. Et toi, Chelsea ?
Pareil, stabilité et passion.
Bon, ben voilà. C'est une bonne, un bon résumé de ce que vous nous avez dit juste avant. Je demande à Marion une petite conclusion sur ce thème-là du choix de l'orientation.
En fait, je me suis dirigée vers la voie de conseillère en insertion professionnelle parce que justement, j'avais trouvé qu'on demandait à des jeunes de définir un projet de vie à un âge, comme disait Chelsea, qui n'est pas du tout concerné par la retraite, la carrière professionnelle ou même l'emploi tout simplement. Et effectivement, les jeunes partent plus par défaut, pour être une statistique ou ne pas être une statistique dans une mauvaise filière. Et du coup, quand on leur demande vraiment leur projet, qu'est-ce qu'ils veulent faire, énormément répondent qu'on ne leur a jamais posé la question, oui. En fait. Donc c'est vrai que mon sentiment, en tout cas à la mission locale de conseillère, il est de faire sens auprès des jeunes et justement de les aider à trouver leur sens à eux.
C'est ça, votre choix d'avoir rejoint la mission locale aujourd'hui vous paraît complètement cohérent et porteur de sens, hein.
Oui, complètement. C'est exactement ça.
Merci, Marion. Merci. Une nouvelle pause, hein, un nouveau titre. Hein. Qui est-ce qui a un titre à nous donner pour la troisième pause, hein?
Moi.
Oui, Yann.
You Know You're Right de Nirvana.
Nirvana. Et pourquoi ce titre?
Parce que j'aime beaucoup Nirvana.
C'est un titre que tu joues, toi?
Oui.
À la basse?
Oui.
Oui, très bien. Mais on écoute Nirvana, alors. À tout de suite.
IDFM, 98 FM.
C'est notre dernière ligne droite pour cette émission La Parole aux Jeunes en compagnie de jeunes de la mission locale avec de Sergi. Donc avec nous dans le studio, Chelsea, Mohad, Samantha, Fatima, Lohan, Yann, Rézi et Marion. Et le principe de l'émission, c'est qu'à la fin, je vous demande ce que vous, pourquoi vous êtes à la mission locale et que vous apporte l'accompagnement de la mission locale. Donc, Lohan, je te pose la question.
Bah, moi, si je suis à la mission locale, c'est parce que j'avais besoin de savoir ce que je voulais faire plus tard et aussi pour pouvoir m'aider parce que du coup, je sais que je vais aller dans la petite enfance. Donc, ça me permet de qu'ils m'accompagnent dans mes démarches pour... faire la formation.
Et tu te sens vraiment prise en main à la mission locale, c'est
oui,
important.
Oui, oui.
Oui, très bien. Merci Lohan.
De rien.
Fatima, ton sentiment sur cet accompagnement de la mission locale?
Oui, moi je suis à la mission locale pour plusieurs raisons, mais essentiellement parce que j'étais à la recherche d'emploi le temps de trouver un financement doctoral. Avec le temps, j'ai découvert que j'ai accès à plusieurs services, notamment le service santé et le service activité externe. Je ne sais pas comment on le nomme exactement, mais comme l'atelier radio aujourd'hui, oui. Comme d'autres activités auxquelles on m'invite. Et ça m'aide énormément. J'ai de nouveaux amis. J'ai un nouveau réseau.
Oui.
Et ça me fait plaisir. De connaître de nouveaux gens et d'entendre d'autres jeunes et de savoir sur leur parcours.
Est-ce que tu as le sentiment aussi de que les uns les autres vous entraidez? Il y a
Oui.
Il y a ce sentiment.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on est dans un atelier où je rencontre je rencontre des jeunes, il y a toujours ce sentiment qu'on veut parler, qu'on veut se demander des questions. Il y a un peu des hésitations, pour être honnête. Les gens sont un peu timides parfois parce que ils pensent qu'il faut pas parler tout. Mais avec le temps, quand on se voit
plusieurs fois,
ça marche et on commence à parler plus.
L'atmosphère se détend et c'est plus fluide.
Oui. Et à se demander plus des questions et sur nos vies. Et tout.
Merci Fatima. Yann. Toi, tu es à la mission locale, pour quelles raisons et que penses-tu de l'accompagnement?
Alors, au départ, j'étais venu à la mission locale parce que j'étais à la recherche d'un emploi.
Oui.
Et ensuite, on m'a parlé du CEJ, on m'a dit qu'on pouvait m'accompagner pour structurer mon projet professionnel. Et c'est comme j'ai dit, ça donne une bonne structure et c'est ça que j'aime. Je trouve ça super utile, je pensais pas que ce serait aussi utile, mais ça m'aide à m'orienter, on va dire. C'est comme une boussole un petit peu.
C'est ça, une boussole, oui, c'est une belle image.
Ouais. Je considère que j'étais beaucoup plus perdu avant la mission locale qu'après. Là, j'ai l'impression de savoir un peu mieux où je vais.
Très bien. Merci, Yann. Mohad?
Est-ce que vous pouvez répéter la question,
Pourquoi es-tu à la mission locale et que penses-tu de l'accompagnement de cette mission locale?
Je suis à mission locale pour chercher un emploi en premier. Et l'aide que propose Mission Locale, notamment l'aide au financement, ça serait pas mal aussi pour le BAFA, puisque ma mairie ne peut pas financer la formation du BAFA. Voilà, faut attendre l'année prochaine. C'est une bonne idée de s'orienter vers Mission Locale pour qu'on puisse réaliser nos projets, pour qu'on puisse se payer la formation. Voilà, c'est tout.
Et le fait comme ça de faire des ateliers, de rencontrer d'autres jeunes de ton âge, c'est important pour toi?
Oui, on fait des rencontres. Mais moi, en premier, honnêtement, si je suis là, c'est pour réaliser les activités.
Oui.
Et pour que je puisse être réglo avec ma... Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, la personne qui s'occupe... mission locale.
Ta référente.
Voilà, ta référente. Je suis cette carré avec ma référente.
Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es venu un petit peu contraint, voilà, forcé. C'est...
Non, pas forcé, parce que sinon, je serais pas venu. Mais,
mais au bout du compte, qu'est-ce que tu en as pensé de cet atelier?
C'est sympa. Bon. Voilà. C'est sympa. Et puis, peut-être que je reviendrai, enfin, sûrement.
Ah, écoute, avec plaisir. Je suis ravie. Voilà. Merci, Mouad. Chelsea.
Alors, moi... En toute honnêteté, dans un premier temps, je suis venue à la mission locale parce que je n'ai plus d'emploi depuis février.
Oui.
Donc, je cherchais déjà un moyen de ressources financières. Mais en fait, m'étant renseignée et ayant eu un premier échange en fait avec une conseillère mission locale, j'ai pu voir que ça allait m'apporter beaucoup plus que des ressources financières. Donc, j'en ai profité pour m'inscrire notamment. Pour m'aider sur les recherches d'alternance et surtout m'améliorer et prendre confiance, notamment concernant les entretiens.
Ah oui,
les entretiens,
c'est important,
ouais. Et donc moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Là, ça fait déjà un mois que je suis inscrite à la mission locale. En un mois, ça m'a apporté quand même pas mal de choses. J'ai pu faire de nouvelles connaissances et prendre confiance grâce aux différents ateliers qui sont mis en place par la mission locale, parce que c'est un peu compliqué déjà pour moi de parler comme ça. Et là, je parle beaucoup.
Écoute, oui, on te sent très à l'aise en tout cas.
Et là, je parle beaucoup, et sans la mission locale, je ne pense pas que je serais passée à la radio un jour. Donc,
voilà.
Donc ça m'a apporté plein de bonnes choses.
Merci Chelsea pour ce témoignage. Et je m'adresse maintenant à Rézi et Marion. Donc, un mot sur ce témoignage des jeunes que vous accompagnez à propos de la mission locale. Donc, Marion, c'est vous qui lancez le feu vert.
Eh bien, quand on parlait tout à l'heure de sens sur justement l'accompagnement qu'on fait dans notre métier, c'est d'entendre que de la bouche des jeunes qu'on accompagne aujourd'hui, ça leur est utile. Donc ça vient satisfaire cette utilité sociale dont vous parliez tout à l'heure, qui nous motive, en tout cas pour ma part, à poursuivre dans ce métier.
Et vous, ça vient vraiment positionner votre choix que vous avez fait de rejoindre la mission locale, finalement, Marion?
Oui, complètement. Il y avait plusieurs mots que vous avez dit dans le choix d'une orientation. Effectivement, c'est pas dans le social qu'on va pour le salaire. Mmh. On y va plutôt par vocation, parce qu'on souhaite apporter une pierre à l'édifice et entendre aujourd'hui grâce à un accompagnement par les conseillers de la mission locale, les jeunes trouvent leur voie, leur sens, leur utilité ou le salaire qu'ils souhaitent. C'est l'objectif de mes réveils le matin.
Merci beaucoup, Marion. Rézi, un petit mot pour commenter ce que nous ont dit ces jeunes sur la mission locale.
Je vais pas être beaucoup plus original que ma collègue. Et c'est super plaisant d'entendre tous les petits mots qui ont été adressés à notre égard. Et je voulais préciser aussi que ça reste un travail collectif, je pense. Un accompagnement, comme le mot l'indique, c'est pas faire à la place. Donc si leur accompagnement se passe bien, c'est aussi parce qu'ils s'impliquent. Et je pense que ça fait la différence aussi. Donc, félicitations aux collègues qui bossent bien, mais félicitations à eux de s'impliquer dans leur projet, dans leur avenir professionnel. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Rézi. Merci. Je crois que c'est vraiment un joli mot de la fin de dire que c'est collectif et que chacun porte en soi sa propre réussite, finalement. Merci à tous pour votre implication, votre sincérité, puis la qualité de vos interventions. Merci également à la mission locale de Cergy pour son engagement auprès des jeunes. Merci à Francky pour ses conseils pendant l'enregistrement. On s'est un petit peu fait disputer, hein, il faut le savoir. Mais bon, il est là pour ça. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur EDFM Radio pour une nouvelle édition de La Parole aux Jeunes. À bientôt.
écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Bonjour, c'est Jacqueline Voras sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matins de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
Qu'est-ce que vous voulez, bordel ?
La vérité, capitaine !
Ici, la clé de l'assassinat de JFK reposait dans les mains d'un seul homme.
Le 22 novembre 1963, est-ce que cette date vous dit quelque chose ?
Deux comédiens, quatre destins, un secret d'État.
Dans les affaires de votre père, il y a sûrement quelque chose qui m'aiderait à prouver tout ce que je viens de vous expliquer.
Entre complot, trahison et quête de vérité, découvrez la première fiction théâtrale autour de l'un des assassinats politiques les plus fascinants du XXe siècle.
Je trahis toutes les valeurs que vous m'avez enseignées.
Le courage est la valeur qui définit toutes les autres, Ethan. L'heure est aux hommes de courage.
Kennedy des hommes de courage, à découvrir du 4 au 25 juillet au théâtre Barreta à 20h30 au Festival d'Avignon OFF 2026.